Prions. Père, ta parole est pour nous ferme du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie, que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
De nos trois lectures du jour, la première est tirée du premier livre des Rois. C'est un épisode connu de la vie du prophète Élie. Sous le règne du roi Achab, Élie a défié les prophètes de Baal pour montrer la suprématie du Dieu d'Israël. Suite à son défi qu'il a gagné, il a tué les 450 prophètes de Baal. Mais lorsque Jézabel, épouse du roi Achab et qui avait introduit le culte du dieu Baal, l'apprend, elle veut faire tuer Élie. Nous lisons dans 1 Roi 19, les versets 1 à 8. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et l'y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb.
Notre deuxième lecture est tirée de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 10. Paul traite de la question du peuple juif et son positionnement dans la question du salut par Jésus-Christ, eux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Il enseigne que juifs ou non-juifs, tous nous pouvons être sauvés par la foi seule. Nous lisons dans Romains 10, les versets 1 à 13. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je lui rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir à leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur « Qui montera au ciel ?» ce serait en faire descendre Christ, ou qui descendre dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert d'honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font l'appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.
Notre dernière lecture est tirée de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14. Jésus vient d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Nous lisons dans Matthieu 14, les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et les suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.
Voilà un texte bien connu, le miracle de la multiplication des pains, texte que l'on retrouve aussi dans les évangiles selon Marc, Luc et Jean. Il y a même 2 récits de la multiplication des pains chez Matthieu, à 1 chapitre d'intervalle, et c'est le premier récit que nous avons lu ce matin. Alors nous allons voir ce qu'il peut nous dire aujourd'hui. La première chose qui me frappe, c'est le mot « désert ». C'est l'histoire d'une foule dans un lieu désert, on l'a entendu, qui nous rappelle l'histoire d'un peuple au désert. D'un côté, on a le pain qui se multiplie, de l'autre, on a la manne qui est donné chaque jour comme nourriture. Ça nous fait aussi écho à l'histoire d'Élie que nous avons entendue, qui part au désert se réfugier et que Dieu nourrit par un gâteau, c'est-à-dire du pain. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de nourrir son peuple, première chose. Et Jésus, Dieu fait chair, le fait aussi. Mais je vous prie de noter une différence quand même notable, c'est que dans le récit de la manne au désert, le peuple reçoit chaque jour du ciel juste ce qu'il faut pour le nourrir. Et tout stockage est interdit par Dieu, parce que ça pourrit. Dieu apprend à son peuple à compter sur lui. Ici, dans le récit de la multiplication des pains, vous avez noté qu'il y a un surplus, une surabondance qui va donner au-delà de ce qui est nécessaire. Les disciples repartent avec 12 corbeilles remplies de pain. C'est comme si on était passé de la période de l'Ancien Testament où Dieu enseigne son peuple par la loi, à l'ère de la grâce et de l'abondance donnée en Jésus-Christ, inaugurée par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette ère-là, l'ère de la grâce surabondante. Mais alors, cette abondance, d'où vient-elle? De quoi est-ce qu'elle part? Eh bien, très important, elle ne part pas de rien. Le miracle ici, ce n'est pas que Jésus a transformé des pierres en pain, ou du sable en pain, que sais-je. Ça, souvenons-nous, c'est le diable, au chapitre 4 de cet évangile de Matthieu, qui le lui demande quand il le teste au début de son ministère, transforme ses pierres en pain. Non, le miracle ici, c'est que Jésus, Dieu, multiplie jusqu'à l'abondance un petit quelque chose qui était tout petit, 5 pains de poisson, mais qui était là, il y avait quelque chose. Frères et sœurs, nous avons toujours quelque chose, même quand nous disons « je n'ai rien ». Si nous sommes honnêtes et lucides, nous avons toujours quelque chose. Ça fait écho aussi, tout à l'heure on a lu cet épisode de la vie d'Élie. 2 chapitres avant, dans le premier livre des Rois, il y a un autre épisode de la vie d'Élie qui est très fort, hein, qui parle de ce petit quelque chose que Dieu peut multiplier. Élie va sous l'ordre de Dieu chez une femme veuve à Sarepta. Cette femme vit seule avec son jeune fils. Élie trouve refuge chez elle et lui demande de l'héberger et de le nourrir. Et la veuve lui dit, il lui demande d'abord de l'eau, elle lui donne de l'eau, puis après il lui demande à manger. Elle lui dit, écoute, il me reste juste un dernier bout de farine et un fond de bouteille d'huile. Je vais préparer quelque chose pour mon fils et moi. Nous mangerons et après nous mourrons. Il n'y avait plus rien, mais il y avait ce petit reste. Et Élie lui dit, va, prépare à manger avec la farine et ton huile. Et de jour en jour, cette femme a pu faire à manger. Il y a eu un miracle de multiplication de la farine et de l'huile, sans qu'on sache comment. Toujours est-il que la farine ne s'épuisa pas et que la cruche d'huile ne se vida pas. Donc, de presque rien, Dieu peut faire abonder, Dieu peut multiplier. Il part de ce qu'on a. Une chose essentielle, aussi que ce texte nous apprend, c'est la question de la prière de bénédiction. Avant de rompre le pain et de le distribuer, que fait Jésus? Il lève les yeux au ciel et il rend grâce. Dans le texte grec, le mot c'est « il bénit ». Il n'a pas prié pour que Dieu fasse un miracle. Il bénit Dieu. On est là dans la piété juive, telle qu'elle n'a jamais cessé, la vie d'un juif pieux, et la journée est, comment dire, entrecoupée de prières, de bénédictions pour chaque instant. Et c'est normalement la piété protestante réformée. Bénir Dieu pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous faisons. Rendre grâce en toutes choses, et notamment à un moment important de nos journées, qui est le repas. Merci. Moi, j'ai grandi dans une famille où on priait, souvent en chantant, à tous les repas. C'était le moment familial à table, et c'était tout à fait naturel. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée en Europe de voir que cette habitude, même au sein des familles réformées historiques, c'était la plupart du temps perdu. Et ça me questionne, même aujourd'hui, je me dis, ce n'est pas qu'une habitude. C'est vraiment l'expression de notre rapport à Dieu, notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne. Et le repas, ce n'est pas rien. Nous revenons en famille d'un séjour à Madagascar. J'apprends que beaucoup de gens ne font qu'un repas par jour, faute de moyens. Alors il y a bien sûr la nourriture qui coûte cher, mais il y a aussi le carburant, le bois pour cuire les aliments qui devient un luxe. Et donc, en famille, nous essayons de rendre grâce pour chaque repas. Parfois juste un mot, merci Seigneur, parce que ce n'est pas un acquis qui va de soi quand on raisonne à l'échelle de l'humanité dont nous faisons partie. Dans le début du psaume 103, nous avons cette magnifique bénédiction. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est ce premier verset que le pasteur Albert Schweitzer avait l'habitude de dire comme bénédicité avant les repas, pour vous dire ce rapport de bénir Dieu, de nous donner notre nourriture. Alors, notre lecture du jour nous exhorte donc à bénir le Seigneur en toutes choses, à retrouver ce lien au Créateur, Créateur de nos vies, et nous rappelle aussi, comme je l'ai dit, que nous n'avons jamais rien. Et en tant que communauté, on peut méditer cette question de « nous ne sommes jamais sans rien ». Et avant de vouloir plus, il est bon que nous bénissions Dieu pour ce que nous avons déjà. On a la rentrée qui va se profiler bientôt. Et je prends juste un exemple, l'exemple des groupes de culte de l'enfance. Vous savez qu'on a 5 groupes dans la paroisse, bientôt un 6e, bilingue anglophone, mais je vous en parlerai en temps voulu. Et c'est la vie des groupes. D'année en année, il y a des groupes qui grossissent, puis il y a des groupes qui rétrécissent. Parfois même, on en ferme un, on en ouvre un autre. Et puis cette année, on a le groupe de Founet qui va se retrouver à la rentrée avec 2 enfants. Alors dans les groupes, on oscille en moyenne, on a 7-8 enfants par groupe. Parfois, on s'est retrouvé avec 18 enfants dans un groupe. Voilà, on va démarrer l'année avec 2 enfants. Eh bien, je me dis, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Merci Seigneur pour ces 2 enfants, béni sois-tu pour ces 2 enfants, ils sont là, nous te rendons grâce. Et je regarde Pierrette qui est monitrice à Founet, n'est-ce pas Pierrette ? On est heureux, ils sont là, et Dieu, dans sa prodigalité, si c'est sa volonté, multipliera les enfants. Voyez, un exemple tout bête, mais d'une espèce de discipline spirituelle de se dire merci Seigneur. Peut-être que c'est peu à mes yeux, mais toi, tu es le Dieu de l'abondance. Dieu connaît nos besoins, frères et sœurs, et il veut que nous lui rendions grâce, que nous levions les yeux au ciel, que nous décollions parfois de nos réalités pour le bénir, pour lui donner la première place et pour nous attendre à lui. À lui, dans le mystère de son action. Et puis je voudrais souligner le contexte de ce miracle de la multiplication des pains. On a entendu au début du récit que Jésus vient d'apprendre, et la foule avec la mort de Jean, Jean le baptiseur. Il est donc dans un état de tristesse. Aussi chez les foules, Jean était très aimé, et les circonstances de sa mort ont quelque chose d'absurde, de violent, d'injuste, d'arbitraire. C'est l'histoire d'Hérode qui, enivré dans un banquet admiratif de la beauté et de la danse de la fille de sa maîtresse, lui demande ce qu'elle veut en lui disant « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». Et elle lui demande la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste meurt. C'était le monde où Jésus vivait. C'était pas le meilleur des mondes. Et dans bien des pays aujourd'hui, c'est ça le contexte. L'arbitraire des gens au pouvoir, la loi du plus fort. Tous les pays ne sont pas des pays où règne l'état de droit. Mais ce qui est fort, c'est que malgré cette injustice ambiante, cette violence, cette horreur parfois, Dieu travaille et nourrit son peuple et même au-delà. Sa logique de vie, d'abondance, ne dépend pas du contexte humain. Son règne avance, le royaume de Dieu avance, quoi qu'il arrive, et il est plus fort que les forces du mal à l'œuvre dans notre monde. Enfin, frères et sœurs, je voudrais souligner le parallèle que ce texte fait avec la scène. Car dans ce récit de la multiplication de pains, tous les mots qui sont utilisés, Jésus prit du pain, il prononce la bénédiction, il le rompt, il le donne, sont exactement les mêmes que nous retrouvons dans le chapitre 26 du même évangile de Matthieu, lorsqu'il institue le dernier repas. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Cène. Grâce soit rendue à Dieu que cela fait plus de 2000 ans que les églises et les communautés prennent la Cène. Nous prenons la Cène, quel que soit le contexte du monde, et nous chantons le Sanctus, Saint, 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 et le Seigneur, parfois au milieu des ténèbres du monde. La scène est ce lieu où nous recevons dans la foi la présence de Dieu qui s'est donné en Jésus-Christ pour nous. Malgré la violence, malgré les deuils, malgré la maladie, malgré toutes ces conséquences du péché qui tourmentent l'humanité, notre humanité, Dieu nous nourrit de son propre corps, de son sang, de sa parole faite chair. Il nous fait vivre, il nous restaure, il veut pour nous la vie en abondance. Et ça, au cœur même de nos déserts, parce que nous aussi, nous avons nos déserts et nous sommes bien souvent au désert, comme le peuple d'Israël, comme la foule qui suit Jésus. Alors je terminerai par une exhortation. Mon frère, ma sœur, si tu traverses un désert, si tu as récemment entendu une mauvaise nouvelle, si tu es déprimé, angoissé, que sais-je, n'oublie pas que Jésus est là pour te nourrir, pour te restaurer, comme pour cette foule dans le désert, angoissé par la mort de Jean-Baptiste. Comme Élie au désert, en proie à la dépression, à l'envie de mourir. N'oublie pas de rendre grâce pour ce que tu as, car tu as des choses. Tu n'as pas rien. Et n'oublie pas de participer à la Sainte Cène, d'être assidu au culte, car Dieu t'y attend pour t'y donner ses dons, dimanche après dimanche. Attends-toi à lui seul, avec foi et confiance. Il est le maître de ta vie, il est le sauveur de ton être.